Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne tous les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC et les invite à participer sans condition au dialogue ouvert par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta du Kenya. Ceci est contenu dans une déclaration parvenue aujourd'hui à Radio Kapi. En sport, le match RDC-Gabon confirmé pour ce soir à 21h heure de Kinshasa au Stade des Martyrs. C'est un match à huis clos dédié à la population de l'est de la RDC, indique le ministre des Sports. Et puis, l'invité de ce soir, Petnan Daliko. Il est le directeur artistique des Rencontres d'Ishango, lancé hier à Goma, festival connu depuis plusieurs années sous l'ancien nom de Skiff. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne tous les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Dans une déclaration parvenue à Radio Kapi ce samedi, le Conseil de sécurité appelle ces groupes armés à participer sans condition au dialogue interne à la RDC ouvert par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta du Kenya. D'autres détails avec Paul Matendo Mayamba.
Le Conseil de sécurité condamne notamment les M23, la coopérative pour le développement du Congo, les forces démocratiques alliées, les forces démocratiques de libération du Rwanda, Red Tabara, les groupes Mai Mai et plusieurs autres groupes nationaux et étrangers. Dans la même déclaration, le Conseil de sécurité condamne également les attaques récemment perpétrées contre les FARDC et la MONUSCO et demande aux groupes armés nationaux de mettre immédiatement fin à toute forme de violence, de sédition, soudre définitivement, de déposer les armes et de participer au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Les conseils de sécurité exhortent aussi les groupes armés étrangers présents au Congo à se désarmer et à retourner immédiatement dans leur pays d'origine respectif. Par ailleurs, ils constatent les progrès accomplis dans la réalisation des engagements nationaux et régionaux pris au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région et engage les pays de la région à tirer parti de l'élan actuel pour avancer encore dans les règlements des problèmes qui font obstacle à la paix et au développement durable. Il engage également les parties à poursuivre leurs efforts visant à désamorcer les tensions et à s'abstenir de toute déclaration incendiaire et de toute incitation à la violence.
Pendant ce temps, en Ituri, 11 villages lacustres sur le littoral du lac Albert dans le groupement Tchomi à territoire de Djougou se sont presque vidés hier de leurs habitants. C'est à la suite des tirs entendus dans la zone qui ont fait croire à la population à une nouvelle attaque des miliciens du groupe armé Codeco. Le jeudi, une attaque de ces rebelles avait causé la mort de 7 personnes dans le camp de pêche de Mbogi et Nyamamba. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Le point de la situation avec Ezekiel Mouzalia.
Vendredi après-midi, une vive tension était perceptible au centre de Tchomia, à environ 60 km de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. À la base, une manœuvre des FARDC qui revenait d'une zone de combat dans le groupement Losandrema, selon l'armée. Il n'en fallait pas plus pour que la population située au bord du lac Albert se mette à fuir la localité, croyant une nouvelle incursion des miliciens de la Codeco dans cette zone lacustre. Dans cette confusion, certains ont embarqué dans des pirogues pour se sauver, d'autres ont pris la direction des Kasenyi et même des Luganda voisins, expliquent des témoins dont la plupart ont passé nuit loin de leurs habitations. Un activiste des droits de l'homme dans la région indique ce matin que cette situation a créé des énormes pertes pour les opérateurs économiques et pêcheurs qui ont tout abandonné. Pour l'armée, il ne s'agit pas d'un exercice de tir comme indiqué par des habitants, mais plutôt d'une manœuvre de démontage d'une arme PKM qui a fait échapper quelques coups de canon. Son porte-parole en Ituri appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restant en Ituri, 2 morts, plus de 300 vaches emportées et des maisons détruites. Bilan provisoire des affrontements hier entre les FARDC et des miliciens de la Codeco au village Peigny, dans le territoire de Djougou. D'après des sources locales, ces miliciens ont surpris les éleveurs dans la localité d'Anou pour se ravitailler en vivres. Cette situation a créé un déplacement massif des populations dans la zone, affirme la société civile locale. L'armée, pour sa part, indique avoir repris le contrôle de cette zone et récupéré les biens volés, retrouvant nouveau Ezekiel Mouzalia pour les détails.
C'est dans la mi-journée de vendredi que les miliciens de la Codeco ont pris d'assaut la localité de Peigny, située au nord-est de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. Ils ont arrosé la cité des tirs pour effrayer la population avant de se livrer aux actes de pillage et de destruction des maisons, ce qui a poussé de nombreux habitants de Malabo et Drigui à fuir vers Ndougwe pour leur sécurité. Selon la société civile locale, ces rebelles ont récupéré plus de 300 vaches qu'ils voulaient amener dans la brousse en direction des Mandro, mais c'est sans compter sur les FARDC qui les attendaient dans la localité d'Anou. Les combats entre l'armée et ses miliciens ont duré plusieurs heures. Les FARDC affirment avoir récupéré les vaches volées et neutralisé deux assaillants. 5 fusils AK-47 ont été saisis par l'armée. De son côté, la société civile locale estime à plus de 4000 le nombre d'habitants qui ont fui ces combats. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, rassure que la situation est redevenue sous le contrôle des militaires qui, ajoute-t-il, vont procéder à la restitution des biens pillés à leurs propriétaires. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Le centre provincial de transfusion sanguine vient de lancer ce samedi à Goma une campagne provinciale de dons bénévoles de sang pour soutenir les FARDC. Selon le médecin coordonnateur de ce centre, cette campagne concerne non seulement les donneurs réguliers, mais aussi tous les potentiels donneurs en province. Dr Liliane Bouiza estime que le don de sang en faveur des militaires est un geste fort de soutien à l'armée qui défend la nation. Le médecin coordonnateur du centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu s'exprime au micro de Rosalie.
Dans cette période ici où notre province traverse une turbulence sécuritaire, nos militaires au front, ils ont besoin vraiment du sang. Du sang, c'est une composante qu'on ne peut pas trouver dans de pharmacies ou au marché. Donc c'est notre devoir en tant que patriotes de venir soutenir nos militaires, raison pour laquelle nous revenons encore auprès de nos donneurs de sang, de venir nombreux à la banque de sang pour donner un peu de leur sang. C'est une façon de dire à nos militaires que nous sommes avec eux, nous les soutenons à donner un peu de notre vie, un peu de notre sang. Le moment est arrivé de faire l'acte de charité, l'acte de solidarité. Nous devons être derrière nos militaires. Nous soutenons nos vaillants militaires en donnant un peu de notre sang. Nous invitons les potentiels donneurs, les nouveaux donneurs, la population. Venez, soyez nombreux.
Docteur Liliane Bouiza ajoute que ce don de sang s'est fait au niveau des centres de transfusion sanguine de Goma, de Rutshuru, de Butembo et de Beni. Je vous le disais en titre, la rencontre entre les léopards de la RDC et les panthères du Gabon est confirmée pour ce soir au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Dans son message à l'occasion de cette grande messe de football, le ministre Serge Kondé affirme que c'est un match à huis clos et le dédie à la population de l'Est. Les propos du ministre des Sports recueillis par J.R. Lungebo.
On a eu à multiplier plusieurs réunions entre ministères, fédérations et aussi la CAF et nos correspondants gabonais. Et voilà que la CAF a décidé finalement de décaler le match et ça sera ce soir à 21h. Jusqu'à présent, nous sommes sous sanction CAF. Il y a des amendes que nous sommes en train de payer suite au débordement qu'il y a eu lors du match contre le Maroc. Donc je tiens à informer le public congolais qu'il y aura un match à huis clos. Je demanderai plutôt au public kinois, à tous les Congolais, de croire en leur équipe nationale. Vous savez, nous avons des agressions à l'est du pays. Il n'y a que les léopards qui peuvent consoler le peuple congolais, qui peuvent consoler les familles de l'est où il y a des pleurs, il y a des familles qui se déplacent nuitamment, les enfants qui se perdent, les mamans qui souffrent, les balles qui crépitent. Alors nous sommes en train de prier Dieu pour que la guerre s'arrête dans la sous-région et que l'est du pays soit pacifié. Alors le match de ce soir sera dédié à la population à l'est du pays. Avec la victoire des léopards, je pense que ça va apaiser toutes ces familles qui sont en détresse à l'est du pays.
Et puis, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles congolaises invite les politiciens à ne plus s'ingérer dans leurs affaires et plaide pour leur autonomie. Ce message des autorités coutumières est lancé ce samedi à l'occasion de leur congrès à Kinshasa, organisé dans la commune de Lemba. Parmi les revendications, les détenteurs des pouvoirs coutumiers sollicitent aussi la budgétisation de leurs structures pour gérer des conflits fonciers qui font le plein dans les tribunaux congolais, disent-ils. Le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles congolaises, Wilbert Kyungu, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Remettre l'ordre au sein de la coutume congolaise et lutter pour la restauration du pouvoir ancestral, socle de développement de notre pays, et retour de l'authenticité gardien de la coutume congolaise, prônée par l'ancien chef de l'État, Mobutu Sese Seko. À cet effet, l'opinion traditionnelle exige que la coutume congolaise soit institutionnelle, avec son budget autonome pour la résolution des conflits coutumiers, plus de 600 conflits enregistrés au ministère de l'Intérieur interminable, la purification de la terre congolaise, en commençant par la province de Nord Kivu, Sud Kivu. La coutume congolaise invite les politiciens de ne plus s'ingérer dans ces affaires. Les politiciens avalent la coutume au lieu que la coutume s'efface elle-même à ce qui concerne la coutume.
Dans l'actualité aussi, le début hier des travaux de la pré-revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation au Sud Kivu. Cette pré-revue connaît la participation des cadres provinciaux des quatre ministères sous-sectoriels de l'éducation, notamment l'EPST, l'enseignement supérieur, le ministère des Affaires sociales et la formation professionnelle et métiers. Ensemble, ils produiront un document unique à présenter à la revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui se déroulera au mois de septembre prochain. Le prophète Simon Zono explique au micro de Rachel Kiesé.
Nous nous retrouvons pour dresser le bilan, jauger les progrès réalisés par rapport à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation depuis 2016. Et au vu des résultats que nous aurons engagés, nous allons formuler des perspectives pour les trois années à venir, de 2023 à 2025. Et nous allons analyser au cours de cette pré-revue provinciale la coordination, les résultats que nous aurons eus à l'issue de ces assises seront envoyés à Kinshasa pour alimenter la revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, document de référence de tous les quatre ministères qui ont en charge l'éducation des enfants, dont les travaux vont se dérouler au mois de septembre 2022 au niveau national.
Retour au Nord Kivu. La sécurisation de matériel et personnel engagé dans les travaux de construction des routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana, Rutshuru par l'entreprise indienne basée en Ouganda, DOT, sera assurée par les armées congolaises et ougandaises. L'annonce a été faite hier par le coordonnateur des opérations conjointes des FARDC et UPDF contre les EDF, ce après son retour de l'Ouganda pour la signature de l'accord de la prolongation de ces opérations. Le général-major Camille Bombele a également précisé que 40% de la main d'œuvre sera ougandaise et 60% congolaise pendant ces travaux. Le général-major Camille Bombele explique au micro de la presse des FARDC.
Je viens de faire une petite réunion avec les managers ici sur place, qui est les responsables de la société DOT ici en RD Congo. Selon les conventions faites avec les deux gouvernements, il y a 40% des travailleurs qui doivent venir de la République et celle de l'Ouganda, et 60% de la République démocratique du Congo. Et je dois veiller à ce que ces quotas-là soient respectés, parce que, à part les besoins économiques, sécuritaires, il y a aussi les besoins sociaux. Nous allons sécuriser des Kasindi, Beni jusqu'à Butembo, et ce sera de même aussi du côté de Bunagana, Rutshuru, du côté de la République démocratique du Congo, il y a sa troupe, les FARDC, et du côté de l'Ouganda, il y a l'UPDF, toujours dans le cadre des opérations conjointes.
Rappelons que le 16 juin 2021, les présidents Tshisekedi et Museveni avaient lancé les travaux d'asphaltage des axes routiers Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma dans le Nord Kivu, long de 223 kilomètres. Le coût total des travaux est d'environ 300 millions de dollars, financé à hauteur de 60% par l'entreprise indienne DOT, basée en Ouganda, et 40% par la RDC et l'Ouganda.
Actualité internationale.
Les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce samedi à Accra, au Ghana, pour décider d'atténuer ou de durcir les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, où les juntes n'entendent pas lâcher de sitôt le pouvoir pris par la force. Cette réunion continuera à se concentrer sur l'instabilité politique qui sévit dans la région et la résurgence des coups d'État depuis août 2020, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo à l'ouverture de la session en présence des chefs d'État de la plupart des 15 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Aucun représentant des trois pays concernés n'a en revanche été aperçu. Par ailleurs, au Soudan, l'expert des droits humains de l'ONU, Adama Dieng, a dénoncé ce samedi à Khartoum la tragédie de la répression qui a tué 99 manifestants depuis le putsch d'octobre, appelant à juger les auteurs et à des actions concrètes et courageuses. Alors même qu'il rencontrait des responsables vendredi, un jeune manifestant a été fauché d'une balle dans la poitrine, selon des médecins. Comme lui, des milliers de Soudanais étaient sortis dans les rues pour réclamer justice 3 ans jour pour jour après la mort de 128 manifestants dans la dispersion d'un sit-in réclamant à l'armée d'intégrer des civils au nouveau pouvoir après la chute de la dictature militaro-islamiste d'Omar el-Béchir.
L'invité.
Les rencontres d'Ishango ont été lancées hier à Goma, au nord Kivu, connu depuis plusieurs années sous l'ancien nom de Salam Kivu International Film Festival, SKIF en sigle. Elles sont organisées par le Centre culturel Yole Africa sous le thème Adissi Ekolegia, traduisez l'histoire et l'écologie. Cet événement va réunir pendant 10 jours les artistes de plusieurs pays, les chercheurs et la communauté pour analyser la contribution de l'art dans la construction de notre société d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons le directeur artistique de ces rencontres, Petnan Daliko. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Petnan Daliko, bonjour.
Bonjour, ma sœur.
Vous lancez ce vendredi les rencontres d'Ishango à Goma. Pourquoi aller des SKIF aux rencontres d'Ishango?
Nous sommes partis des SKIF à Ishango parce que tout simplement, il était temps que l'on commence à valoriser les savoirs qui sont produits ici chez nous. Quand on a commencé le projet, que ce soit SKIF et SIF, nous, on voulait aussi rester un tout petit peu dans le discours global, le discours international. Nous avons compris, en fait, que notre approche était déjà originale depuis le début et que ça ne valait pas la peine de rester dans cette logique de festival. Pour nous, c'était plutôt, on s'est rencontrés pour trouver des solutions aux problèmes que notre société traversait. Et à cela, retourner à Ishango comme le symbole carrément de la connaissance indigène. Hein, quand on parle de l'os d'Ishango, la plus vieille calculatrice mathématique. Donc, pour nous, c'était une logique de retourner vers ce début de connaissance pour devoir, n'est-ce pas, imaginer d'autres possibilités d'organisation d'une vie sociale.
Quel est le thème général de ces rencontres?
Le thème général, on a dit, c'est Addis in Ecologia, c'est-à-dire c'est comment raconter une histoire, mais tout en tenant compte des enjeux écologiques. Pourquoi cela est si important pour nous? Parce que nous partons du proverbe d'Al-Kebulan, hein, où on dit que le monde a été construit par des histoires. Et le peuple s'adapte aux histoires auxquelles elle est confrontée tout le temps. Et si nous, on doit s'adapter aux histoires des autres, c'est-à-dire on n'aura jamais notre propre histoire à nous. Et pour cela, la façon dont nous devons construire l'histoire, la façon dont nous devons consommer les images, joue beaucoup à notre devenir. Pour jouer déjà ce grand rôle sur le devenir de nos peuples, nous devons nous approprier ce récit historique, comment le raconter et quand le raconter.
Quelles sont les activités qui vont meubler ces rencontres d'Ishango?
Plusieurs films, il faut que les gens viennent voir. Et tous ces films-là, leur particularité, ce que c'est au fait, c'est des films qui questionnent même le langage cinématographique. Vous savez, même que ce soit, comme je parlais de comment raconter l'histoire, tout le langage cinématographique a été créé sans l'apport de l'Afrique. On parle de plan américain, on parle de plan italien, on parle de tout ça. On n'a jamais parlé d'un plan, je sais pas, congolais, ou un plan hundé, ou un plan, je sais pas, tutsi. Créer même ce langage-là a été adapté aux cultures. Parce que lorsqu'on parle de plan américain, c'est par rapport au Colt que les cowboys peuvent porter. Et la question que moi je pose souvent à mes étudiants, c'est de savoir, alors, quand une maman porte l'enfant au dos, comment est-ce qu'on va appeler ce plan-là? Donc c'est-à-dire on ne se retrouve même pas dans ce langage-là et chaque fois on voit les gens filmés en train de dire ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a l'aspect psychologique de l'image. Voilà, et c'est tout ça, l'apport de tous ces films. Ils vont ramener aussi ces discussions à la table où nous tous on va discuter de comment raconter carrément l'histoire. Il y a le film de Toshi que je trouve vraiment trop spécial. Elle vient du Japon et elle aussi elle est fascinée par la question de la décolonialité. Il y a le film Stop Filming Us de Bernadette et de Kagoma qui en fait c'est une reprise d'un film tourné par un Hollandais ici à Goma mais qui n'a pas plu aux jeunes de Goma et ils ont retourné ce film avec maintenant un œil critique. Et c'est vraiment fascinant. Le film a beaucoup de succès en Europe. Je crois que le film aura aussi assez de succès ici parce que cela épingle et parle vraiment du problématique de la représentation. Il y a aussi le film de Maïcha Maene, Moulika. Le film était tourné dans le cratère du volcan Nyiragongo ici par un jeune de Goma. Et je trouve que c'est un film fascinant parce que c'est un film qui se projette dans le futur. Donc Goma dans 2050. Vous voyez, donc déjà nous commençons à aborder des thèmes qui étaient un petit peu tabous ici chez nous. Mais voilà, les films sont là et il y a des ateliers, des rencontres, des discussions autour de ce même thème aussi.
Selon les programmes, les projections des films vont commencer à 18h. Il y a les couvre-feu à Goma. Comment ça va se passer exactement?
Nous croyons que c'est le meilleur moment en fait, d'avoir ce genre d'événement. Lorsque nous avons commencé Skiff, personne ne fréquentait Goma la nuit. Oui, on se dit aujourd'hui, si l'artiste sait parler de la paix, en tout cas dans cette région, on y est pour quelque chose. Oui, et dans l'état de siège, nous ramenons des activités encore de nuit, où les réflexions de comment organiser la société vont se mettre en place, je crois que ça pourra être même bénéfique à ceux qui troublent la quiété de la population. Et aussi, nous allons mettre des moyens de transport vers 20h30 qui vont devoir ramener les gens.
Petnin Daliko, merci.
Ça a toujours été un plaisir de parler avec vous.
Voilà, notre invité, le directeur artistique des rencontres d'Ichango, répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis.